la habitación.
Oui, oui, eh bien, en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à prendre la parole après tout ce que nous avons entendu. J'ai demandé à M. Pita possible parce que j'aime bien intégrer ce qui se dit dans une rencontre, dans une rencontre comme celle-ci. Et parce que aussi, j'ai un propos sur la question du religieux et du rapport du religieux avec les autres grands secteurs des sociétés, secteurs où se construit, se produit le développement historique des sociétés. Par exemple, le religieux et le politique. Le religieux et la connaissance. Le religieux et les cultures, etc., etc. Et vous constatez, j'espère que le titre que j'ai retenu ne vous a pas effrayé, parce que, comme vous le voyez déjà dans le titre, j'emploie une expression qui n'est pas habituelle. Je parle d'une critique anthropo-philosophique du religieux. Anthropo-philosophique. Autrement dit, je lis, je mets un lien constructif entre les données de la recherche anthropologique sur les cultures et donc les religions, toutes les cultures et toutes les religions, afin d'identifier le socle commun utilisé par toutes les religions sans exception. Depuis les religions dites païennes, depuis qu'il y a le monothéisme, mais qui ont couvert toutes les sociétés humaines avant justement l'intervention du monothéisme, et ces religions dites païennes continuent d'exister parmi nous. Elles ne sont pas complètement mortes. Elles existent sous couvert de l'islam. Elles existent sous couvert du christianisme. Deux religions qui sont venues s'installer dans toute l'Asie, dans toute l'Afrique. Mais deux religions qui ont émergé historiquement dans un espace historique bien délimité. C'est l'espace historique de ce que nous appelons aujourd'hui le Moyen-Orient. Et dans cet espace historique que nous appelons le Moyen-Orient, on peut l'élargir à l'espace historique méditerranéen. Espace historique méditerranéen, qui est différent de l'espace géographique méditerranéen, parce qu'il est plus étendu. Anthropologiquement parlant, l'espace historique méditerranéen va de la frontière constituée par l'Indus en allant vers l'Atlantique et en englobant tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Et l'Afrique du Nord. Pourquoi ? Parce que dans tout cet espace, il y a eu la circulation de l'événement, de la culture, de ce qui va devenir la culture, liée au monothéisme et au prophétisme, et au phénomène, je l'appelle phénomène parce qu'il est objet d'étude, de la révélation. C'est là que ça se passe. Très exactement, ce que nous appelons aujourd'hui les Israël, Palestine, Syrie, Irak, c'est là que ça se passe. Et c'est donc lié à la culture de cette région. Mais à peu près au même moment, 4e siècle avant Jésus-Christ, 5e siècle avant Jésus-Christ, dans ce même espace, apparaît une manifestation de ce que j'appellerais l'esprit humain autonome. C'est le logos, le fameux logos grec. C'est le corpus aristotélicien.
le corpus aristotélicien a régné sur les... Et avant la langue arabe, la langue syriaque, qui est une langue sémitique, comme l'arabe et comme l'hébreu. Et nous avons donc là de la pensée. Et dans ce socle linguistique de la pensée, il y a deux grands axes qui sont concomitants, historiquement concomitants.
Puisque si nous gardons la référence 5e siècle avant Jésus-Christ, la Bible est déjà là, les manifestations de l'enseignement biblique sont déjà là, et puis le logos grec prend son essor. Et il prend son essor d'une manière qui impressionne, nous impressionne encore aujourd'hui. Qui est impressionné par le corpus d'Aristote? Un cerveau humain qui produit cette œuvre-là, au 4e siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est terrible, enfin c'est terrible, c'est merveilleux de faire cette construction qui se veut absolument englobante dans tous les domaines du savoir. Oui, dans la pensée arabe. Le premier mot en arabe, par des penseurs d'expression, il faut dire, pour être juste, des penseurs d'expression arabe. Parce que ceux qui ont utilisé la langue arabe, ce ne sont pas uniquement des musulmans. Ce sont des juifs, ce sont des chrétiens, ce sont des anciens zoroastres mentaux. C'est la langue arabe qui est le véhicule, qui va devenir le véhicule après le 7e siècle. Mais la langue arabe ne fait que prendre un héritage. Et cet héritage-là, déjà, avec Jésus de Nazareth, est un juif. Il a parlé de l'intérieur de la synagogue, Jésus de Nazareth. Il n'a pas parlé en grec, Jésus de Nazareth. Il n'a pas parlé en hébreu. Il a parlé dans une langue apparentée, qu'on appelle l'araméen. L'araméen, c'est le langage quotidien des habitants de cette région, Syrie, Palestine, Israël, aujourd'hui, cette région-là. Région cruciale. Ce que Jésus de Nazareth, le juif, a dit en araméen, va être diffusé, transmis en langue grecque. Et nous y voilà, la langue grecque. Et nous voilà que nous parlons de la place des religions, la paix, etc., que nous faisons. Quelle place prend dans notre réflexion et notre recherche cette référence que je viens de faire rapidement, qui est une référence anthropologique? Et elle a pris des dimensions anthropologiques. Non seulement parce que déjà, il y a eu la rencontre de ce que j'ai appelé l'émergence de la raison populaire, qui n'accepte rien de l'extérieur sans qu'elle le soumette à son analyse, à ses efforts d'intelligibilité. C'est le corpus aristotélicien. Et c'est le corpus platonicien. Et déjà, avec Platon et Aristote, voilà encore une autre référence extrêmement importante pour tout ce qui concerne le religieux, l'écriture de Platon utilise le mythos. Et l'écriture d'Aristote privilégie le logos. Une tension fondatrice que nous perdons de vue. Elle est fondatrice en ce sens que le mythe est encore toujours dans toutes les cultures du monde, y compris aujourd'hui. Seulement le mythe, utilisé philosophiquement par Platon dans ses dialogues, n'est plus du tout le mythe de nos idéologies contemporaines. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut parler de mytho-idéologie. Avec le marxisme, machin, etc. Mytho-idéologie. Vous voyez le travail du concept pour bien discerner les choses, pour ne pas nous laisser envahir par des confusions intellectuelles qui brouillent tout. Il est très important de sauvegarder dans nos têtes
la conscience que j'appelle fondatrice, intellectuellement fondatrice et intellectuellement incontournable encore aujourd'hui dans nos réflexions et nos recherches, qui est la dialectique du post-logos. Quand les historiens écrivent l'histoire de leur nation, ou qu'ils écrivent l'histoire de leur communauté religieuse, ils n'écrivent pas ce que nous appelons aujourd'hui l'histoire publique de la nation. Ils écrivent, et j'utilise un autre concept parce que c'est différent, l'écriture mytho-historique. Parce qu'ils mélangent l'exigence critique de l'écriture historienne moderne et le mythe qui est toujours là, qui s'insinue au nom de l'État-nation, au nom de la glorification de l'État-nation, au nom du fait que je veux que ma nation soit supérieure aux autres. C'est le mythe qui vient s'insérer et se faufiler dans un discours critique d'historien. Vous voyez déjà que nous avons là des outils de travail qui sont des outils que j'appelle anthropophilosophiques. Maintenant, vous voyez ce que ça veut dire. L'anthropophilosophie. J'ai lié des données anthropologiques parce qu'ils sont dans toutes les cultures à des données philosophiques qui nous donnent des outils de pensée, des outils de la communication contrôlée par la raison critique. Je contrôle tout ce que je dis. Je ne m'autorise pas. Parce que je suis musulman ou chrétien ou ceci ou cela, à exposer un discours exclusivement lié à ce qui est ma croyance, à ce qui est ma tradition, à ce qui est mon état-nation. Non, je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai pas le droit intellectuel de le faire. Et ça, nous l'avons appris depuis Aristote. Mais nous l'oublions. Et en particulier en ce qui concerne le parcours historique de la pensée islamique. Ce qui m'a amené à faire tout ça, c'est parce que j'étudie l'histoire de la pensée islamique. Et je me suis aperçu que le parcours européen de la pensée, sous l'Empire et sous l'influence de ces deux axes que je viens de dire, l'axe monothéiste par le judéo-christianisme, et l'islam qui n'a jamais été intégré dans le judéo-christianisme, ça pose un problème, et ça le pose encore aujourd'hui pour la paix. Pourquoi l'islam, qui linguistiquement et anthropologiquement appartient au même socle d'où sont surgies aussi bien la philosophie grecque que le christianisme, ce que nous appelons le christianisme, et le judaïsme. L'islam est resté en marche. C'est un gros problème. Et c'est un gros problème qui est à la racine de tous les conflits que nous avons vécus dans l'espace méditerranéen depuis l'émergence de l'islam. Depuis l'émergence historique de l'islam. D'ailleurs, il y a un historien belge, Henri Pirenne, qui a écrit un livre en 1938 sous le titre « Mahomet et Charlemagne » et qui a attiré l'attention des historiens sur la rupture de civilisation. Pas seulement une rupture de religion, intervenue dans une Méditerranée qui était la Mare Nostrum des Romains, où régnait la Pax Romana des Romains. Voilà la vision. Bon, elle est discutable, on l'a discutée, mais c'est une référence qui nous montre la complexité des choses lorsque nous voulons parler de la culture de paix. Aujourd'hui, si nous n'avons pas ces connaissances dans la tête, nous allons échanger nos meurtrissures, nos blessures, nos réactions émotionnelles de tout ce qui se passe quotidiennement. En Irak, en Palestine, monsieur le japonais là, nous a dit tout de ce matin de rien que depuis 1945, le nombre de guerres qui ont éclaté sur toute la planète. Guerre civile et guerre internationale. Rien que depuis 1900, ça c'est ce rappel qu'il a fait doit nous interpeller. Et comment traiter cela? Il faut revenir aux racines anthropophilosophiques. De quoi? Pas des religions. Pas des cultures seulement. Racines anthropophilosophiques de la violence. La violence est un donné anthropologique, mes chers amis. Ça n'est pas quelque chose qui est particulier à l'islam fondamentaliste. Comme nous le disent les médias, et la communication sur les médias doit être approfondie dans ce sens-là. Comme vous l'avez très justement dit, les médias attisent la violence qui est d'origine et de durée anthropologique. Elle n'est pas d'hier. Elle n'est ni le fait de l'islam, ni du christianisme, ni du bouddhisme, ni de l'hindouisme, ni des cultures prises l'une après l'autre. Elle est structurellement incluse. Vous m'entendez bien? Moi, je répète les choses. Elle est structurellement incluse dans le langage humain. Je vais très loin. Elle est structurellement incluse dans le langage que je parle, quelle que soit la langue que je parle et quelle que soit l'époque où je me trouve et où je vis. Ça, c'est l'anthropologie. Et nul n'échappe à l'anthropologie. Et ces hiérarchies que nous définissons pour nous dire vous, vous êtes l'axe du mal, vous êtes l'axe du bien, vous ceci. Oh, on dit cela, on dit cela. Au 21e siècle, et on le dit, dans le pays le plus pourvu d'armées formidables, de chercheurs scientifiques, dont les bibliothèques sont admirées dans le monde entier et enviées dans le monde entier, et qui le dit, le président de ce pays, qui parle de l'axe du mal et de l'axe du bien, à propos d'un événement, le 11 septembre, à propos d'un événement qui justement signale et nous intime l'obligation d'aller rechercher les origines de la violence dans ses racines anthropologiques. Car chacun de nous, alors, sera astreint à une autocritique pour se demander comment ai-je géré la violence dans mon parcours islamique depuis 622. Et comment ai-je géré la violence depuis que Jésus de Nazareth a parlé aux hommes de son temps? Comment l'ai-je géré la violence? Peu m'importe de signaler l'Inquisition a fait ça, ceci. Non! Soyons modestes et revenons tous à une violence qui est toujours là. Et aujourd'hui, avec le mouvement de la mondialisation, cette violence-là, elle est non seulement anthropologique, relativement contrôlée par les codes culturels des peuples. Aujourd'hui, elle est systémique dans le monde. À la dimension anthropologique, ça s'ajoute le caractère systémique aujourd'hui des structures mondiales de la production du droit. Des structures mondiales de la production du droit. D'un droit qui est fondamentalement l'enregistrement des inégalités qui définissent chaque société. Chaque société est un système d'inégalités. Et aux inégalités internes à chaque société s'ajoutent dans le contexte de mondialisation les inégalités désormais entre les pays riches et les pays pauvres, les pays avancés et les pays retardés, sous-développés, disions-nous, dans les années 60. Et c'est cette généralisation du système d'inégalités à l'ensemble du monde qui fait que la violence, violence politique, violence culturelle, violence juridique, violence morale, violence culturelle, bien sûr, généralisée, systémique. Ce niveau d'analyse-là, nous en avons tous besoin. Y compris cette Europe qui a fait effectivement un parcours historique qui peut être qualifié d'exceptionnel par rapport aux autres cultures. Quelle est l'exception du parcours historique de la pensée européenne? Et quand je dis européenne, les acteurs sont principalement les pays de l'Europe occidentale qui sont en train de former aujourd'hui l'Union européenne. Ce qui fait la différence avec tous les autres parcours, c'est que en Europe, le logos a joui d'une continuité historique. Il a été présent déjà au Moyen-Âge dans le corpus Thomis, Thomas d'Aquin, le fameux Thomas d'Aquin, la somme théologique de Thomas d'Aquin, qui est construite avec le corpus aristotélicien, ce qui a autorisé le pape à dire ce que j'ai rapporté déjà, le pape actuel, que la foi catholique s'est construite au cours de l'histoire dans l'intimité continue avec le Logos. Et deuxième événement qui fait l'exception européenne, c'est que le Logos, mis au service de l'expression de la foi au Moyen-Âge pour construire les théologies, va être dans des conditions historiques de devoir se séparer de la théologie, de devoir reconquérir la liberté du logos, c'est-à-dire l'autonomie de la raison. Car l'Église catholique en Europe a accaparé le pouvoir politique et le pouvoir religieux. La légitimité du pouvoir politique dépend de l'approbation par l'Église et de la légitimité reconnue par l'Église au roi et à tous les pouvoirs qui émergent dans cette Europe. Et c'est devenu de la politique commencée. D'où le cléricalisme et la nécessité de se libérer du cléricalisme comme monopole du pouvoir politique au nom de la religion. Ça, c'est une libération qui a une portée de nouveau anthropo-philosophique. Ça n'est pas un événement particulier à la France, particulier à l'Angleterre, particulier à ceci ou à cela. Ça n'est pas, comme on le dit aujourd'hui dans le monde musulman, un événement particulier à l'Occident. Non. C'est la raison même qui est distribuée à tous les hommes. La raison humaine qui est mise en prison par des systèmes théologiques de contrôle du pouvoir politique, eh bien l'Europe a trouvé le moyen de s'en débarrasser. Pas tout à fait. Et jusqu'à présent, ça n'est pas entièrement réussi. Attention. Mais enfin, ils l'ont fait. Et on nous tassassé les oreilles sur la séparation de l'Église et de l'État. Je dis bien on nous tasse les oreilles, parce que ce problème-là doit être remis en chantier et réexaminé. À la lumière de l'enquête anthropophilosophique que je suis en train d'essayer de dérouler devant vous, en allant très vite. Et si cette exception européenne est telle que je la décris, je ne vois pas d'historien qui puisse contester cette réalité d'ordre historique. Ce n'est pas une affirmation en l'air. Qu'en est-il de l'islam? Qu'en est-il de l'islam? Voilà ici un problème d'histoire absolument capital. on a parlé des confrères hier, voilà le moment où la question et la place des confréries dans toutes les sociétés musulmanes, pas seulement au Sénégal, va prendre un éclairage historique de longue durée. Averroès est mort en 1198, fin du XIIe siècle. Averroès est l'aboutissement d'une utilisation du logos à l'intérieur de la pensée islamique, comme saint Thomas d'Aquin l'a fait pour le christianisme. Et saint Thomas d'Aquin, qui est mort en 1274, donc il est plus vieux, a dû lire les commentaires d'Averroès sur la métaphysique d'Aristote. Il a dû les lire. Bon, il les réfute, c'est de bon jeu. C'est fait pour ça. Pour débattre. Mais il est obligé de passer par Averroès. Averroès était incontournable au XIIIe siècle pour saint Thomas d'Aquin. Voilà des choses qu'il faut retenir. Parce qu'elles sont importantes, ces choses-là. Et parce que nous les avons perdues. Ici, quand je dis nous, ce n'est pas le nous anthropo-philosophique, car c'est dans celui-là que nous travaillons. C'est le nous musulman. Comme il y a le nous juif, comme il y a le nous catholique, comme il y a le nous chrétien orthodoxe, etc., etc. Comme il y a le nous marxiste, marxiste-léniniste, marxiste-trotskiste, etc., etc. Et tous ces nous-là sont interrogés et doivent venir rendre compte de ce qu'ils font devant l'enquête anthropo-philosophique et la critique anthropo-philosophique de ce qui est en train de se passer et des manipulations qui sont en train de se faire à l'intérieur de chaque parcours national, laïque aujourd'hui, ou de chaque parcours religieux, communautaire. Car l'islam, je le répète, après Averroès, c'est fini. Il n'y a plus de penseurs musulmans qui réfèrent à Averroès. Saint Thomas réfère à Averroès, chrétien et latin, et le monde arabe, le monde musulman, ne réfère plus à Averroès. Averroès est mort et son œuvre disparaît. Elle disparaît sous quoi? Pourquoi? C'est le moment où émergent les mouvements confrériques. Et les mouvements confrériques prennent en charge les populations locales. Les populations locales. Parce que le pouvoir central qu'exerçait le califat jusqu'en 1258, quand le califat est aboli par l'invasion mongole, ce pouvoir qui jouait un rôle relativement centralisateur, relativement bien sûr, mais il existait quand même, c'était quand même une référence, au point que Rachid Reza en 1930 va réclamer le retour au califat quand Kemal Atatürk a aboli le sultanat, pas le califat. Le sultanat. Il y a là donc un effondrement d'un temps formidable de la pensée, au sens de la pensée anthropophilosophique, à l'intérieur de la tradition islamique, ce qui entraîne un appauvrissement de la langue arabe qui aujourd'hui ne peut plus exprimer de façon adéquate. Le vocabulaire des sciences sociales qu'utilise notre ami Ozi ici, et quand il a à expliquer au moi-même, tous les professeurs, quand nous avons à faire une conférence en arabe, ben, il faut s'arrêter à traduire le mot sacré en arabe. Parce qu'on le traduit mal. Non. Non, je m'excuse, et voilà, bien sûr, mais j'ai pas le temps, hein. Je vais pas me lancer maintenant, hein. Vous voyez, une conceptuelle. Et la langue de la pensée ne doit pas s'autoriser des confusions de ce... et la langue de la pensée ne doit pas être la confusion de cette nature.
Vous voulez que je m'arrête?
Si vous voulez bien, fidèlement.
Ah oui, bon, je peux m'arrêter, d'accord, mais vous voyez, alors, simplement les trois verbes que j'ai mis sur le dans le titre, les trois verbes, transgresser, déplacer, dépasser. Transgresser quoi? Transgresser les limites mytho-historiques et mytho-idéologiques que nous avons héritées les uns et les autres de l'époque médiévale. Je ne dis pas des écritures de la Bible, des évangiles, et, parce que la Bible, les évangiles et le Coran, c'est un autre statut linguistique. Vous voyez? C'est un autre travail que je n'ai pas le temps de développer ici. C'est pour qu'on comprenne ici l'importance de la méthodologie. Les constructions médiévales sont des constructions mytho-historiques et mytho-idéologiques. Il faut les lire comme telles et les interpréter comme telles. Et non pas comme des lieux de vérité orthodoxe indiscutable. Ça change tout. Ça change tout. Et ça change tout pour tout le monde. Saint Thomas d'Aquin continue d'avoir une autorité dans les milieux catholiques. Mais il y a des théologiens catholiques qui, timidement, parce qu'il y a le magistère encore qui agit, ben oui, ça n'est pas permis de dire tout ce qu'on veut. Ben oui, qu'on voit tout. Chez les musulmans, c'est pire. C'est pire. Il faut savoir ces choses-là. Et ça, c'est un travail de liberté. Donc, transgresser de fausses frontières qui ont été tracées, par exemple, en nous parlant du droit musulman. C'est dans l'actualité, le droit musulman. Et quand on veut faire appliquer le droit musulman en Angleterre, en France et en Allemagne, tel qu'il est, le bon sang. Enfin, bon, donc, c'est ça la transgression. Traverser des frontières parce que ce sont des frontières humaines, tracées par des humains comme nous. Et ces frontières ont été sacralisées par le temps. Mais elles ne sont pas intrinsèquement sacrées. Et vous voyez, le travail qu'il y a à faire. Deuxièmement, déplacer. C'est ce que je viens de faire devant vous. La conférence est ouverte par deux exposés, l'un chrétien et l'autre musulman, sur la contribution de chacune des religions à la paix. Et vous avez vu comment ça s'est déroulé. Et bien moi je déplace la problématique de ces deux présentations en disant oui, d'accord, on peut le faire, mais attention, il faut partir de plus haut si nous voulons faire quelque chose pour la paix. Car si nous partons des deux niveaux où nous avons écouté, on rentre dans la violence systémique. Ça ne change rien à la violence systémique. Car quand un musulman écoute l'exposé du père Bouffeté, à l'intérieur c'est la flamme qui brûle. Et quand le père Bousquet écoute le commentaire sur le Coran qui nous a été donné, je pense qu'il a été dérangé. Bon, et bien tant mieux. Tant mieux. En tout cas, moi, comme vous l'avez vu, je suis dérangé parce que, juste, ça c'est caché.
Comment?
Vous l'avez pas. Je ne l'ai pas caché parce qu'il y a un travail en amont à faire. Et ce travail en amont, c'est celui que je viens de... Alors, dépasser précisément, c'est que il faut aujourd'hui que nous construisions ensemble une commune, une culture et une pensée pour la paix. Ce travail, nous devons le faire ensemble. Il ne peut pas être fait dans le cadre des dialogues interreligieux et interculturels. Parce que le dialogue, comme il a été rappelé par madame hier, le dialogue, si c'est une traversée des vicissitudes du logos, oui,
des vicissitudes historiques du Logos. Oui, mais si c'est une bastille dans laquelle je me retranche, et je dis, moi, vous savez, mais je suis musulman, hein, il y a des limites que personne, vous n'allez pas les franchir. Si vous les franchissez, c'est la bagarre. Et inversement, avec le juif, le chrétien, le bouddhiste, le, etc., on n'est pas sorti de l'auberge. Donc je le répète et je finirai par là, le fait de dépasser, c'est le défi que nous lance l'histoire pour la première fois de l'histoire de la pensée. Parce que jusqu'à présent, nous sommes restés dans nos citadelles respectives que nous avons aménagées pour y vivre confortablement, confortablement spirituellement, confortablement intellectuellement, confortablement politiquement. Plus ou moins confortable aujourd'hui, de moins en moins confortable aujourd'hui. D'où la nécessité de déplacer vers un autre espace d'intelligibilité pour enfin pouvoir être ensemble dans un même espace de travail avec des instances de référence que nous partageons tous au niveau du logos et du mythos ensemble.